BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà la deuxième partie de quoi je me mêle. Merci d'être là. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Avec tous ces week-ends à rallonge, avec des ponts, peut-être en profitez-vous. Vous avez bien raison. De quoi je me mêle en vidéo, en audio, vous le savez, le samedi, en exclu sur YouTube, podcast audio, et puis après le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. Christophe Joly nous a rejoint. Salut Christophe.
Salut François.
Christophe Joly, qui est notre, comment dire, historien de la tech.
Tout ça.
De temps en temps, il dépoussière les technologies qui nous ont marqués. Et là,
pour le coup, ça nous a vraiment marqués.
Ouais, parce que là, on va quand même parler d'un gros morceau dans le monde du jeu vidéo. Est-ce que vous vous rappelez de Game Boy, les amis ? De là où le...
Les deux sont acceptés.
Okay.
Les deux sont acceptés officiellement par Nintendo. C'est soit la Game Boy, soit le Game Boy. Pour moi, c'est là, parce que c'est une console.
Et tu vas nous raconter l'histoire donc du Game Boy.
Voilà, j'en parle alors que la Switch 2 est en cours de lancement, c'est donc ça tombe assez bien. Il faut savoir que la Game Boy, c'est une saga de 14 ans. Donc c'est quand même assez long dans le domaine du jeu vidéo, c'est presque une éternité. On est en 89 quand elle est lancée au Japon, en septembre 90 quand elle est lancée en France. Il faut savoir qu'à l'époque, la tech, c'était quand même pas grand-chose. Hein. C'est l'année du lancement d'Internet. SFR fête ses 2 ans et Motorola commercialise son Microtac. Je te rappelle ce petit téléphone. Voilà, la tech, on est vraiment au tout début.
90, tu dis. Donc en 90. Fait, SFR avait deux ans. N'avait même pas encore lancé le GSM.
Non,
on était encore avec le Radiocom 2000, tu sais, les gros téléphones.
C'était la société française de radio...
de radio télécom, ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça.
Dans les salons, on joue à la Nintendo Famicom au Japon, et Famicom, c'est pour Family Computer. C'est une console qui sera adaptée ensuite en Europe pour devenir la NES.
Ouais. Et la Super NES après.
La Game Boy vient concurrencer la Lynx d'Atari qui disposait à l'époque d'un écran couleur, mais dont l'autonomie était trop faible et son catalogue de jeux était trop faible. Et on va voir là où la Game Boy a fait la différence. On jouait aussi, si tu te rappelles, avec les Game & Watch. C'était des toutes petites consoles avec lesquelles il n'y avait qu'un seul jeu.
Qui se fermait, qui s'ouvrait comme ça, non ?
Non, c'était vraiment un petit bloc avec un tout petit écran noir et blanc.
Oui.
Et c'était des jeux de casse-brique,
Donkey Kong, d'adresse. Des trucs comme
voilà,
ça.
Ouais, des trucs assez basiques.
J'avais ça. Là.
Mais dont l'autonomie était forte, était importante, c'est vraiment tout léger.
Ouais.
Ils s'en vendraient quand même 43 millions d'exemplaires en 10 ans, entre 80 et 91.
Tu te souviens de ce jeu où en fait t'avais des parachutes qui tombaient, devais les récupérer,
Je me rappelle, ça me...
et ça allait de plus en plus vite, mais tu devenais fou avec ce jeu.
Ouais, voilà.
C'est dingue.
C'est ce succès des Game & Watch qui convaincra Nintendo qu'il faut lancer une vraie console de jeu. Selon l'historien Florent Gorge, qui a fait un bouquin intéressant sur la saga Nintendo, que je vous invite à lire, qui est vraiment chouette, il considère que c'est le 8 juin 87 que le patron de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, demande à ce que Nintendo déploie une console avec des cassettes, des cartouches interchangeables.
Okay.
En fait, leur idée, c'était de faire le Walkman, qui a été lancé 10 ans auparavant par Sony, dans le domaine du jeu vidéo. Donc, tu changeais tes cassettes audio, là, tu changes les cassettes pour avoir des jeux différents.
Et t'avais ta console toujours dans ta poche.
Et t'avais toujours ta console. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, en 87, ils donnent l'ordre. Elle est lancée en 89, mais elle a été arrêtée, dont son développement a été interrompu, considérant que c'était plus une priorité, au bénéfice de la console de salon. Sauf que la console de salon est arrivée en retard. Le patron de Nintendo n'était pas content du coup, il a ressorti
Le
projet de la Game Boy. Il faut savoir que pendant un an, les développeurs ont travaillé dessus, mais en sous-marin, sans le dire. Donc ils ont bien fait, parce que finalement, ça a sauvé la mise à Nintendo et c'est devenu un carton. Le cahier des charges de cette Game Boy, fixé par le patron de la R&D 1, R&D 1, c'est le service qui développe les consoles portables. Le R&D 2, c'est celui qui
console
développe
le salon.
Sachant que c'est la guerre entre les deux services. Hein.
C'est fou ça.
Ah oui, hein. Mais comme dans pas mal de boîtes, je crois.
Mais bien sûr. Compétition interne.
Mais
qui peut être parfois stimulante.
Mais aussi. Là, pour le coup, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt à se tirer dans les pattes. Le cahier des charges, il est clair. Elle doit être facile à transporter. Elle doit être robuste, pas chère. Ça, c'est vraiment important. Avec une bonne autonomie. Et donc, les cartouches interchangeables. Le slogan de l'époque, c'est 35 heures de jeu dans la poche avec 4 piles bâtons. À l'époque, ce n'était pas des batteries, c'était des piles bâtons. Dans les faits, c'est un peu moins. On est plus entre 15 et 20 heures, mais c'est quand même une révolution. Donc, tu te souviens, c'est un petit rectangle gris avec la croix directionnelle qu'on avait déjà sur les consoles de salon. 4 touches, très simple.
Bouton d'action.
Select. Voilà, c'est basique. Un processeur Intel de 8 bits, une mémoire RAM de 64 kilobits, ça fait quand même sourire. Écran monochrome Sharp avec 4 nuances de gris. Elle n'était pas très grande, elle faisait 9 cm de large, 14 cm de haut et 3 cm d'épaisseur. Donc elle tenait quand même dans la poche, une poche assez grosse quand même, et 220 grammes sans les piles. Là où elle faisait la différence, c'est son prix. Elle était vendue 590 francs en France. J'ai utilisé le convertisseur de l'INSEE pour voir ce que ça donnerait aujourd'hui. Ça donnait comme 160 euros. Mais à l'époque, c'était vraiment pas cher. Elle était vendue
surtout pour un objet qui était révolutionnaire, en fait.
À l'époque, oui. C'est clair, les téléphones n'existaient pas. On va le voir tout à l'heure. Maintenant, on joue principalement sur les téléphones. Il y avait un câble qui permettait de relier deux consoles pour jouer à deux. Je trouve que c'était plutôt sympa. Elle était vendue avec des écouteurs stéréo. Elle était vendue avec les piles. Elle était vendue avec un jeu dont on parlait tout à l'instant, le Tetris.
Eh oui.
Qui a fait un carton, qui marche toujours très très fort. Et en fait, à la base, elle devait être lancée avec Super Mario Land. Et dans les faits, ils se sont rendus compte, sur les conseils du fondateur de Tetris, que Tetris permettrait de séduire une clientèle des joueurs plus larges.
Et bien sûr.
Voilà, Mario, c'est très enfant.
Ouais.
Là, pour le
Tetris,
coup,
c'est universel, en fait.
C'est universel. Ouais. Les grands-pères, les parents, les enfants, tout le monde allait jouer avec ces jeux. Et y compris les filles, c'est la particularité de la Game Boy. Quasi la moitié des joueurs sont des joueuses, selon Nintendo, en 95. 46% exactement. Notamment avec des jeux qui leur sont dédiés. Les jeux Barbie, par exemple, qui ont très, très bien marché. Les points forts, c'est le prix, on l'a dit, hein, 590 euros. En face, donc c'est 90 dollars à l'époque. En face, t'as l'Atari dont on a parlé à l'instant, qui était deux fois plus chère. Elle était à 179 dollars, avec une autopie largement moins.
Ouais, mais il y avait un écran couleur aussi.
Mais il y avait un écran couleur.
C'était un peu le haut de gamme, on va dire.
C'était un peu le haut de gamme, et je vais t'en parler juste après. Il n'y avait pas match au début, puis finalement, ouais. On voit que c'est pas Atari qui a gagné, c'est Game Boy qui a gagné avec sa petite console. Et un an plus tard est sortie la Sega, la Game Gear, qui était vendue 149 dollars. Donc toujours
plus cher
que la gamme. Et qui était en couleur aussi. L'autonomie de 20 heures, c'était son point fort, donc 15-20 heures, et le catalogue de jeux. Le point faible, c'est l'écran, effectivement, qui est l'atout. Donc, il y a un handicap parce qu'il n'est pas top, mais qui est un atout parce que l'autonomie est importante.
Bien sûr, mais c'était un écran en noir et blanc, quoi.
Voilà, et pas rétroéclairé, donc c'était dans le noir, bah, ça ne marchait pas tout bêtement, et le son était jugé pas très bon. Ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé tous les accessoires qui ont été lancés. Tu pouvais connecter un appareil photo numérique.
Ça alors.
Tu pouvais connecter une imprimante qui permet d'imprimer les photos prises avec l'appareil photo. Tu avais un adaptateur pour relier 4 Game Boy. Donc tu peux jouer en réseau, je trouve ça assez drôle. Tu avais un Lightmax qui est une loupe éclairée, qui permet de pallier le fait que ce soit pas rétroéclairé, d'améliorer la qualité de l'écran. Tu avais une radio Game Boy, tu avais une cartouche vendue uniquement au Japon, mais je trouve ça intéressant pour charger des jeux sur des bornes spéciales. Ça s'appelait les Nintendo Power, mais c'était que au Japon.
Okay.
Mais je trouvais que c'était rigolo.
Donc tu pouvais charger un nouveau jeu.
Un nouveau jeu.
Et après y jouer sur la console.
Sur la console.
C'était hyper innovant quand même à l'époque.
C'est quand même pas mal, t'imagines. Donc on aurait des bornes comme ça pour pouvoir télécharger des jeux.
Dingue.
Aujourd'hui, c'est plus d'actualité évidemment. Tu avais le Super Game Boy qui permet de jouer au jeu Game Boy sur la télé via la Nintendo, la Super Nintendo. Et ensuite, tu avais un accessoire étonnant qui était commercial au Japon qui permettait de commander une machine à coudre, du marque Singer. Voilà,
ça comme quoi,
tout est possible, les Japonais.
Mais c'est fou, Nintendo, ils font des trucs, parfois tu te dis waouh.
Ils ont des drôles de partenaires. Il y avait aussi un sonar, un organiseur, un tuner TV. Voilà, c'était le petit module, le petit hub qui permettait
qu'est-ce qu'on disait les médias à l'époque, Christophe?
Bah,
c'était
assez
une petite
critique.
Révolution ou pas?
Bah, non, en fait, ils voyaient que les specs techniques, donc elle était décevante sur la base de son écran. En interne, chez Nintendo, le nom de code, c'était la DMG. Et en fait, ils l'ont rebaptisé le Dame Game, en fait, le jeu nul. Ça s'appelait vraiment comme ça. Donc en interne, chez Nintendo, on n'y croyait pas trop.
Ouais.
Les médias étaient déçus. Alors, comme nous, parfois, on est tenté par les specs, par le, on veut des choses...
Oui, on veut des choses hyper innovantes, etc.
Voilà, à la pointe. Là, non, c'était pas du tout le cahier des charges.
Ouais, c'était presque low-tech, quoi.
C'est presque low-tech, en fait. Ils voulaient une autonomie importante, beaucoup de jeux.
Oui,
ils voulaient
jeux
que ce soit solide. Et c'est pour ça que ça a marché. 90 dollars à l'époque, là où l'autre coûte deux fois plus cher, peut-être que j'achète deux consoles. Si j'ai deux enfants, plutôt qu'une seule. Donc, les médias sont mitigés, vraiment mitigés. J'ai repris ce que disait le magazine Tilt en France. Le Game Boy, parce que pour eux, c'est un garçon, son écran monochrome de 5,5 cm ressemble davantage à un jeu LCD qu'à une console. Voilà, la messédite, dans leur esprit, c'est quand même pas top. La bombe, c'était l'Atari Lynx, ou Lynx, qui pour eux faisait vraiment la différence en raison de son écran couleur. Hein.
Ouais,
c'était vraiment
ça. Mais qui a très vite coulé, puisque en fait, il n'y avait pas de jeu. En fait, les développeurs,
mais c'est le nerf de la guerre,
pas...
en fait. Et c'est la grande force de Nintendo. C'est le jeu, toujours et encore. Ils ont des licences super fortes.
C'est rigolo que tu cites Tilt, qui était un magazine dédié aux jeux vidéo,
qui nous
a tous marqués. Franchement, moi, j'achetais Tilt avec fébrilité tous les... Je crois que c'était tous les mois. Enfin,
oui,
c'était impressionnant.
Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est un carton. C'est la première console d'histoire à avoir dépassé les 100 millions d'exemplaires vendus. Comme vraiment considérable. 1,4 million de Game Boy ont été vendus en France lors de la première année de commercialisation. Elle sera donc produite pendant 14 ans jusqu'en 2003. Donc c'est quand même pas neutre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 98, ils s'en vendaient plus que lors de son lancement. Ça veut dire qu'ils ont été sur une courbe ascendante. À un moment donné, il a fallu quand même la relancer. C'est Pokémon qui a relancé la console au moment où elle commençait à fléchir. C'était à nouveau un carton avec des consoles bleues, des rouges et autres. Alors après, ils ont fait quelques évolutions avec la Game Boy Pocket, si tu te souviens, qui était 30% plus légère et plus petite.
Oui, qui se clipsait comme ça, non,
non en fait,
c'était pas celle-là.
Non, pas, c'est pas ce que j'ai vu, en tout cas.
Parce qu'il y a juste Game Boy, une petite Game Boy, je sais pas si tu t'en souviens, qui s'ouvrait comme un poudrier.
Eh bien, je ne l'ai pas vu dans les archives Nintendo.
Alors, Après, il y a la Nintendo DS, bien sûr.
Il y a eu la DS, entre deux, il y a la Micro, si tu te souviens, qui était toute petite console, vraiment toute petite, avec un tout petit écran de 2 pouces, noir et blanc. Pareil, des jeux assez basiques, elle pesait 80 grammes. Je me rappelle que je l'avais reçue à l'époque où j'étais, je sais pas où, je te mettais 20 minutes. Je me rappelle que je l'avais reçue et les enfants aimaient bien jouer avec ça. L'évolution la plus importante, c'est la Game Boy Color qui est sortie en 98. Et pour le coup, c'est intéressant parce qu'elle a été développée dans l'urgence, parce que Bandai s'apprêtait à lancer sa WonderSwan, qui a été annoncée agressive en prix, agressive en matière de tech. Et donc, les patrons de Nintendo ont dit qu'il faut sortir cette Color avant de se faire couper sous le pied par Bandai, et c'était un carton. Là, ce qui était, il y avait la couleur, donc 32 000 couleurs possibles, l'écran était plus grand, un processeur deux fois plus puissant, donc on passe quand même dans une autre catégorie, et il y avait un peu de couleurs, il y avait du violet, du vert, du bleu, du jaune, et du violet clair, ça changeait un peu du gris. En tout, ils en ont vendu 118 millions d'exemplaires, si je cumule toutes les Game Boy.
C'est pas mal.
C'est quand même pas mal. Il y a eu l'Advance, en 2001, avec un processeur de 32 bits, 82 millions d'exemplaires. Si on fait le cumul, hein, c'est quand même beaucoup, on arrive à 200 millions d'exemplaires de Game Boy. Là, il y avait un écran rétroéclairé pour jeu dans le noir. Elle sera arrêtée en 2008, donc une carrière assez courte comparée à la Game Boy.
Et puis après, c'est ce qu'on disait, la Nintendo DS qui arrive.
Ce qui était intéressant avec l'Advance...
Avec écran tactile aussi à l'époque, DS.
La DS était la première avec écran tactile. Ce qui est intéressant avec la Game Boy Advance, c'est qu'elle était rétrocompatible avec les jeux de la première Game Boy.
Ça c'est...
Et c'est quand même plutôt malin, ça évite à chaque fois de mettre la pression de console. C'était déjà écologique en fait, quasi.
C'est vrai.
Et donc
on
a eu la DS, la 3DS qui s'est vendue à 75 millions. La DS, 154 millions d'exemplaires. C'est quand même, moi je trouve que les chiffres sont assez considérables. Il y a eu un échec. Est-ce que tu te rappelles de l'échec de Nintendo? Gros échec. Ça te parle
quoi?
Je te dis Wii U.
Ah oui, la Wii U, bien sûr.
12 millions.
Console de salon, là.
Voilà, console de salon, mais qui avait aussi qui pouvait être portable. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un écran déporté
qui
permettait de jouer. Donc là, c'est vraiment un flop. Aujourd'hui, la Switch, rien n'en mettre, parce que la PSP s'est arrêtée il y a 10 ans. Donc c'est vraiment devenu la console portable salon les deux conjugués. Le combiné marche plutôt bien. Et maintenant, sont arrivées les consoles qui tournent sur Windows, notamment, avec des consoles qui permettent de jouer dans le cloud en local.
Et avec des jeux PC, Steam, etc. Voilà. etc.
Et là, il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses, ça coûte plus cher. Hein. Ça coûte entre 400, 600, 700 ou voire 1000 euros. Bon, désormais, on est à 23% à jouer sur des consoles portables contre 56% sur les téléphones mobiles.
C'est dingue.
La messe est dite.
Oui, mais cela dit, regarde, la Switch 2 va bientôt sortir et tout le monde attend cette console.
Ah oui,
quoi.
Oui.
Donc les consoles portables ne sont pas mortes.
Elles ne sont pas mortes, mais parce que c'est un combiné, parce qu'elle est hybride.
Et puis,
c'est ça, sa force,
et puis, il y a le savoir-faire Nintendo aussi.
Et les jeux, toujours et encore.
Merci pour cette petite escapade
nostalgique. Je retourne jouer avec ma Game Boy.
Mon cher Christophe. Merci Christophe Joly, donc journaliste et évidemment qui vient de nous voir de temps en temps pour
toujours avec plaisir
nous replonger dans les, on va dire, l'histoire de la tech. Pour terminer ce De quoi je me mêle, merci de nous avoir suivis, bien sûr, bon week-end à vous toutes et à vous tous, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.